Et la clé de voûte du château de Versailles, c'est à suivre. Il arrive Alain Baraton dans un instant.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
Bonjour mon cher Alain.
Vous me mettez la pression. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour mon cher Alain.
Alain, vous semblez regretter l'annulation du Festival de Cannes.
Oui, c'est hier soir, on aurait dû attendre les programmes. Et moi je suis triste de ne pas célébrer une manifestation qui aime tant les plantes qu'elle a choisi de séparer en deux les œuvres cinématographiques. D'un côté, les navets. Et de l'autre, les palmes. Alors, pour me consoler, je vais moi-même décerner une palme ce matin, celle du texte officiel inutile, à savoir l'inscription à l'inventaire des monuments historiques, une supposée protection qui n'a pas empêché de couper les arbres du jardin du cinéma La Pagode, sitôt le déconfinement prononcé, un bâtiment construit en 1896, en plein cœur de Paris. Adieu le sublime Jingo Biloba, le hêtre pleureur, l'élanque, le marronnier et tous les autres végétaux. Le jardin est inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du 21 février 1983. Il était donc protégé. De qui se moque-t-on ?
Alors, pour votre festival de Cannes, vous remettez quelques prix. Le prix de la mise en scène, par exemple.
Oui, pour Le Jardinier d'Argenteuil. Un film réalisé par Jean-Paul Le Chanois en 1966, avec Jean Gabin qui interprète le Père Tulipe, un drôle de bonhomme à la retraite, qui partage son temps entre le jardinage et la fausse monnaie.
Le prix du scénario pour le dialogue avec mon jardinier.
Un film merveilleux de Jean Becker, d'après le roman d'Henri Cueco, l'histoire d'une rencontre entre un artiste peintre interprété par Daniel Auteuil et un jardinier joué par Jean-Pierre Darroussin. Alors si j'aime ce film, c'est pas seulement qu'il est joliment interprété, c'est qu'il est rare au cinéma de voir des jardiniers présentés comme des hommes sages et philosophes, et Jean-Pierre Darroussin est capable de le faire, et ça me plaît beaucoup.
Du pinceau et du jardin, je crois qu'il s'appelle dans le film les noms des deux héros. Et puis enfin, votre prix d'interprétation masculine.
Mon grand prix d'interprétation masculine pour un acteur inconnu de tous et qui pourtant aurait dû être le premier à recevoir cette distinction. En 1895, Louis et Auguste Lumière inventent le cinématographe. Leur premier film est la sortie de leurs usines, puis l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Ils tournent ensuite un petit film d'une durée de 49 secondes qui raconte une histoire que nous connaissons tous, celle...
L'arroseur arrosé.
Eh oui, le célèbre arroseur arrosé. Alors ce que l'on sait moins, c'est que le premier rôle, celui de l'arroseur, est tenu par le jardinier, le propre jardinier de Louis Lumière, qui joue ici donc son propre rôle. Cet homme s'appelait François Clair, il est le tout premier acteur à jouer devant une caméra, premier acteur et jardinier, j'ai quand même de quoi être fier de ma corporation.
Et vous pouvez, Alain Baraton, vos conseils à présent, oui.
Je voulais en profiter pour remercier Inter. Je pensais pas qu'un jour je pourrais décerner mes propres palmes. C'est quand même un plaisir relativement rare que je savoure.
Faites gaffe, il y a le melon qui vient, pas très loin aussi.
Après vous l'avoir qualifié de voûte du château de Versailles.
Vous êtes aussi un beau légume, paraît-il. Alain Baraton, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter qui nous ont écrit. Marie-Laure voudrait savoir comment faire pour que les roses trémières gardent un joli feuillage, pour qu'elles ne soient pas tachées de brun et non pas pour qu'elles ne soient pas mangées par les limaçons également.
Il n'y a pas grand-chose à faire, soyons réalistes, soyons objectifs. Pour éviter que la rouille, c'est une maladie que l'on trouve souvent sur les roses trémières, ne fasse quelques dégâts, il faudrait traiter. Alors on peut bien mettre quelques purins, mais c'est pas toujours simple. Pour éloigner les gastéropodes qui se délectent des feuilles de...
On fait comment ?
On met des produits, là encore, on met encore quelques purins. Non, le jardin, il faut accepter l'idée que quelques plantes comme les roses trémières présentent parfois des feuilles pas très jolies. Mais ce qui fait la beauté de la rose trémière, c'est sa hauteur, c'est la couleur de cette fleur, cette disposition. Alors ma foi, de temps en temps, la nature n'est pas parfaite. C'est peut-être ce qui fait qu'elle est belle.
Et elle pousse entre deux pierres, c'est le long des murs, des jardins, elle aime la pierre, elle aime la chaleur.
C'est très étonnant, et si on laisse la rose trémière tranquille, elle va produire des graines qui vont se réensemencer le végétal, et on a ainsi des roses trémières qui durent très longtemps. On en voit maintenant sur le bord du périphérique parisien, on en voit partout, preuve que le réchauffement climatique n'est pas une lubie, pardonnez-moi, quoiqu'il y a peut-être la phobie de la rose trémière, allez savoir, mais une réalité.
Corinne voudrait parler de sa haie de forsythia devant sa maison. La haie est déplumée à la base sur au moins 50 cm. Il reste à l'extrémité, un toupé de feuilles et de fleurs qui se fanent en ce moment. Alors la question de Corinne, faut-il tailler cette haie de forsythia et sur quelle hauteur ?
Je pense que oui, parce que je suis l'un de ceux qui parlent du sécateur avec beaucoup de précautions et de réserves. Mais le forsythia est un végétal qui a tellement été traficoté, reproduit, hybridé, etc., qu'il n'est plus vraiment le fier buisson d'autrefois. Alors pour éviter qu'il parte dans tous les sens, une taille après la floraison s'impose pour favoriser le redémarrage des branches les plus basses du sol. Là, le propos n'est pas de faire refleurir le végétal, mais de densifier ça,
oui, vous avec vous. La haie de forsythia, il faut la densifier.
Vous avez du mal hein, ce matin. Oui, je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit.
Il y a des jours comme ça. Il y a des jours.
Voilà. Il y a des jours où ça sort moins bien.
Eh bien, oui. Donc, On peut donc tailler le forsythia maintenant pour encourager le démarrage des branches situées le plus près du sol.
Allez, je vais vous parler de glycine à présent. La glycine de Marion ne fleurit plus depuis 2 ans, alors qu'elle était superbe pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on n'en sait rien. Les glycines
sont parmi les baratons.
Non, mais les glycines sont parmi les plantes. Vous savez, les jardiniers ne sont pas des sorciers, ni même des devins.
Elles sont capricieuses, les glycines.
Non, mais c'est un petit peu comme votre voisin qui certains jours vous sourit, d'autres pas. Eh bien, les plantes sont capables certaines années d'avoir envie d'assurer une descendance, de fleurir. Et puis certaines années, eh bien, il n'y a pas ou très peu de fleurs. Regardez les arbres fruitiers. Certaines années, les cerisiers, par exemple, sont couverts de fruits. L'année suivante, il n'y en a pratiquement pas.
Ils se reposent.
Eh bien, la glycine, c'est la même chose. De temps en temps, elle a envie de fleurir. De temps en temps, elle n'a pas envie. Inutile de tailler, inutile de mettre de l'engrais, inutile d'arroser. On ne peut rien faire. La glycine, c'est ce que j'aime dans la glycine. Elle a du caractère.
Et de la force jusqu'à tordre le fer.
C'est assez incroyable. Vous avez raison de le souligner. L'occasion de rappeler qu'on ne plante donc pas une glycine sur les près des installations un peu fragiles. Mais la glycine fleurit quand elle en a envie.
Mais alors quand elle fleurit, qu'est-ce que c'est beau?
Ah, c'est magnifique.
Et ça sent bon.
Il y a une glycine aux États-Unis qui fait 300 mètres de longueur. Elle produit des milliers de fleurs. C'est une merveille absolument incroyable. Et j'en profite pour rappeler qu'en Chine ou au Japon, on fait des structures avec des glycines à tomber à la renverse.
Allez, un dernier conseil pour le week-end. Enfin, très la fin de week-end.
Très beau conseil. Graines. Un petit grand voyage. C'est Plume de Carotte qui fait un ouvrage pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. 18 euros. C'est de José Ramón Alonso, qui est donc l'auteur et l'illustrateur, c'est Marco Pinocchello. Magnifique bouquin. C'est un bouquin de dessin pour les jeunes, disais-je. On apprend tout sur les graines. Merveilleux.
Le jardinier de Versailles, Alain Baraton. Merci Alain. Et à la semaine prochaine.
À samedi.